RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, Jacob Zuma est en France aujourd'hui et demain le président sud-africain en visite officielle et à cette occasion nous rediffusons un grand reportage sur les archives du procès Rivonia donc en Afrique du Sud. C'est au terme de ce procès historique en 1963 et 1964 que Nelson Mandela et sept compagnons de la lutte anti-apartheid ont été condamnés au bagne à vie. À l'époque, les audiences étaient enregistrées sur des supports en vinyle appelés Dictabelt. Près de 600 dictabelt, 230 heures d'enregistrement ont été numérisées par l'Institut National de l'Audiovisuel en France. On entend dans ce grand reportage les compagnons de Mandela dans le box des accusés défier le régime ségrégationniste. Documentaire sonore signé Nicolas Champeau.
Les archives sonores du procès Rivonia ont été conservées dans l'armoire forte de Henri Chamou durant près d'un an, le temps de leur numérisation dans son laboratoire qui est logé dans un bâtiment de l'école normale supérieure en proche banlieue parisienne. Henri Chamou enroule les dictabelts, des vinyles souples, translucides, rouges ou bleus, autour d'un cylindre fixé à un archéophone. Cette machine de son invention permet de lire ces cylindres phonographiques à la manière d'un tourne-disque, un diamant file sur les sillons sans les user. Et c'est tant mieux, ceux du procès de Rivonia sont très précieux.
Cette machine est conçue pour lire les cylindres initialement, sans les abîmer, avec une pression de l'ordre de 2 ou 3 grammes sur la pointe de lecture, au lieu d'une cinquantaine de grammes à l'époque. Je lis les cylindres avec des moyens donc analogiques, avec contact.
Et donc là, vous avez entre les mains trois petites boîtes en carton.
Voilà, qui contiennent des cahiers. Le procès consiste en, non pas en trois boîtes, mais 8 boîtes au complet pour 600 dictabelts. Et dans ces boîtes, on a des pages. Ces pages portent des enveloppes qui chacune abrite une demi-douzaine de dictabelts, qui sont donc des manchons de vinyle translucides, très fins. Et chacun de ces manchons est accompagné d'un papier très bref, descriptif, qui décrit à peu près la demi-heure, une demi-heure, peu ou prou, enregistrée sur chacun des dictabelts. Parfois, les points les plus marquants ont été manuscrits, peut-être dans le cadre d'une audition ultérieure des documents sonores. Sur certains de ces dictabelts, donc sur une série de 7 dictabelts précisément, on entend Mandela. Et il y a vraiment, au moment où Mandela prend la parole, au moment où il prononce les mots fameux par lesquels il dit qu'il est prêt à vivre pour sa cause et même à mourir, on entend bien les silences.
But my lord, if it needs be, it is an idea for which I am prepared to die.
Nelson Mandela avait refusé de se plier à l'interrogatoire de l'accusation. En tant qu'avocat, il savait parfaitement que le juge en tirait des conséquences en sa défaveur, mais Mandela avait préféré lire un discours de combat. Durant plus de 3 heures, l'accusé numéro 1 du procès Rivonia a justifié tous les actes posés au nom de la lutte contre le régime ségrégationniste, y compris les sabotages menés par l'Umkhonto Wesizwe, la branche armée de l'ANC. Cette allocution historique, prononcée le 20 avril 1964, a été numérisé par le soin des archives britanniques il y a 16 ans. La plupart des autres accusés ont dû affronter, eux, le redoutable avocat général, Percy Yutar. Et ces quelques 230 heures d'interrogatoire, dont voici des extraits, ne sont pas encore dans le domaine public.
Puis l'avocat général pose des questions, qui essaye d'avoir une voix douce et qui... Il élève la voix quand il pose une question, comme je suis en train de le faire, en restant d'une extrême politesse, mais voilà, quelque chose qu'on sent redoutable.
You asked Mr. Sulu for it? Mr. Sulu was not there on the Wednesday night.
He came there on the Thursday?
Yes.
Did you ask him for it?
I did not.
Why not?
He had just come there.
Je suis présent lors de la numérisation, ça a représenté pour moi un peu plus d'un an de travail. J'ai eu la primeur de l'audition intégrale de ce procès. Moi, ce qui m'a le plus ému, je crois, c'est une intervention de Ahmed Katrada. je ne sais pas si tous les accusés interviennent tout de même avec la même fougue.
Ahmed Katrada, l'accusé numéro 5, a succédé à Walter Sisulu dans le box. Il avait 34 ans au moment du procès et vivait dans la clandestinité. Au moment de son arrestation, il était déguisé en travailleur portugais. Il portait une épaisse moustache et se faisait appeler Pedro Pereira. Katrada était un membre actif du Parti communiste sud-africain et du Congrès indien. Il avait joué un rôle de premier plan dans la campagne de désobéissance civile de l'ANC en 1952. Son fort, c'était la logistique. C'est un homme qui est toujours resté humble, ce qui ne l'a pas empêché d'être impertinent.
Je me suis amené à me documenter moi-même modestement et je me suis aperçu que des 10 principaux accusés, il en existait toujours 3 bien vivants dans ce monde. Je m'interrogeais quand on a vécu ça et est-ce qu'on serait curieux d'entendre sa propre voix 50 ans après.
Oh, hello, Ahmed Katrada.
Hello.
Yeah, it's Nicolas Champeau, Radio France International.
Good afternoon to you.
How are you today?
Very well, thank you. And you? How's the weather there?
Ahmed Katrada a accepté sans trop se faire prier d'écouter avec nous pour la première fois les bandes du procès Rivonia. Il a été mis à rude épreuve durant ses interrogatoires, mais il est fier d'avoir tenu tête à l'avocat général.
Le procureur était très hostile à l'égard de nous tous dans le box des accusés. Mais nous étions tout aussi hostiles vis-à-vis de lui. Nous avions décidé de ne pas retenir nos coups et de lui répondre avec la même agressivité. Et je pouvais être brutal et violent dans mes réponses. Je pouvais faire ce que je voulais. La plupart du temps, j'étais direct et terre à terre. Et je répondais à ses coups, je contre-attaquais, parce que ce procureur était une petite brute. Nous nous attendions à être condamnés à mort. Nous n'avions rien à perdre. Donc, nous n'avions pas à prendre de précautions avant de parler. Et c'est comme ça que nous avons conduit notre défense. Je suis arrivé la nuit du 10.
Et c'est Paul qui vous a amené ?
Non.
Qui vous a conduit ?
C'est un ami.
Qui ?
Je ne suis pas disposé à divulguer le nom de cet ami.
Vous n'y êtes pas disposé ?
Non.
Eh bien, nous allons commencer à compter tous ces refus. Dans votre cas, cela fait un.
Et il n'aimait pas du tout mes réponses, mais alors pas du tout. Je lui avais dit que je n'étais pas disposé à dire quoi que ce soit sur les autres accusés ou sur d'autres gens en liberté. Je lui ai dit « Posez des questions sur moi et je répondrai, mais je ne dirai rien sur mes collègues. » Notre approche a donné le ton et dicté la conduite que devaient suivre les autres camarades lors d'autres procès politiques. Parce qu'au procès Rivonia, les 4 dirigeants les plus capés de l'ANC étaient dans le box des accusés. Donc, leur comportement a servi d'exemple pour les autres.
Ahmed Katrada, Walter Sisulu, Dennis Goldberg, Govan Mbeki et les autres ont été arrêtés lors d'un raid mené par la police le 11 juillet 1963 à l'Ellesley Farm, une ferme de Rivonia qui était le quartier général des cadres de l'ANC dans le nord de Johannesburg. Nelson Mandela, lui, était déjà en prison. Dans l'extrait suivant, il est question d'un texte que Walter Sisulu, le plus haut gradé dans la hiérarchie des cadres de l'ANC encore en Afrique du Sud, devait lire pour une radio.
I don't know where it was found. Well, his lordship was told where it was found.
Le document a été retrouvé par la police le jour du raid dans une remise à charbon. Le procureur somme Katrada d'expliquer pourquoi ce document important a atterri dans cette remise au milieu de sacs de charbon. Katrada est gêné. Il fait semblant de découvrir que le texte a été retrouvé là. Il tente de convaincre le procureur que le texte a été rangé et non caché dans la remise. Le procureur malmène Katrada. Il lui demande de lire un document qui indique où cette pièce à conviction a été trouvée. Dans une remise à charbon, lit Katrada, de plus en plus sous pression de l'accusation. Mais Katrada continue de jouer le fourbe en gardant son calme, tandis que le procureur se fait de plus en plus méprisant et menaçant.
I have no idea.
You have no idea.
But I'm not surprised, my lord. Why are you not surprised? Because the ruthless coal shed
Une résolution des Nations Unies avait appelé les autorités sud-africaines à renoncer au procès, qui était largement suivi par la presse nationale et internationale, assez sympathique à l'égard de Nelson Mandela et de ses camarades de lutte. Et ces archives le confirment, ils ont saisi l'occasion pour transformer leur box d'accusés en tribune contre l'apartheid.
Dès le début, avec nos dirigeants, Mandela, Sisulu et les autres, nous avons décidé d'aborder le procès comme un combat politique et de ne pas nous placer sur un terrain judiciaire. Nous avons décidé de clamer haut et fort nos convictions politiques et de n'implorer ni clémence, ni grâce, ni pardon, même en cas de peine de mort. Heureusement, les journalistes avaient le droit de rendre compte des audiences parce que, vous savez, en dehors du tribunal, les journalistes n'avaient pas le droit de nous citer, parce que nous et nos organisations étaient bannis. En revanche, il n'y avait pas de restrictions sur les déclarations que nous faisions à l'audience. Les journalistes pouvaient donc nous citer à loisir en long et en large, et c'est ce qu'ils ont fait.
Dans l'un des premiers dictabelt concernant Katrada, le procureur général est revenu sur son parcours. À 22 ans, Katrada a abandonné ses études de droit pour prendre la tête d'une délégation de jeunes Sud-Africains lors d'un congrès de la jeunesse en Europe. Ce voyage l'a amené à Londres, Berlin et Budapest. Percy Yutar lui a demandé de revenir sur cet épisode marquant de sa vie.
Est-ce que votre visite en Europe a eu un impact sur vous? Ça a dû être un petit choc quand même.
Monsieur le juge, pour un non-européen, quitter l'Afrique du Sud et arriver en Europe, c'est comme entrer dans un nouveau monde. Ma toute première impression, c'était à l'aéroport, à Londres, lorsque j'ai vu des Européens nettoyer eux-mêmes le sol.
Et là-bas, vous avez eu la possibilité d'aller au théâtre, au ballet, à l'opéra?
Oui, même rien que d'aller au restaurant, boire une tasse de thé au restaurant. Pour la première fois de ma vie, je pouvais entrer dans un restaurant et commander une tasse de thé.
Rester dans un hôtel, prendre un ascenseur, prendre le bus ou le train quand vous le vouliez, n'est-ce pas?
Oui, c'était en Angleterre.
Katrada a saisi au bon cette question pour critiquer en filigrane l'absence de liberté en Afrique du Sud.
Ça me rappelle des souvenirs. Je me rappelle bien de ces moments de mon existence quand j'étais bien plus jeune qu'aujourd'hui. En Europe, nous avons vu de nos yeux ce que voulait dire la liberté. C'était ma première fois dans un hôtel, dans une bibliothèque, dans un vrai restaurant. Et c'était exactement pour cela que nous nous battions. Et nous nous sommes dit que grâce à notre lutte, un jour, nous allions voir tout ça de nos yeux dans notre propre pays. Pouvoir aller dans un hôtel, rentrer dans un ascenseur où il n'y aurait plus de pancarte indiquant réservé aux Européens. Le procureur n'en avait pas conscience, mais en fait, il me donnait l'opportunité de prononcer des déclarations politiques. Il m'a permis de dire des choses qui ne faisaient pas du tout partie de ses objectifs à lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait, mais en posant ces questions, il nous a permis de faire des déclarations et nous l'avons fait dès que l'occasion se présentait.
Lors de cette année passée en Europe au début des années 50, Ahmed Katrada et les jeunes de sa délégation se sont rendus au camp de concentration d'Auschwitz. Percy Yutar, qui était juif, a tenu à l'interroger sur cette visite, une aubaine pour l'accusé numéro 5.
Eh bien, monsieur le juge, nous avons tous été choqués par ce que nous avons vu à Auschwitz. Nous avons vu des ossements humains. En fait, nous avons même marché sur des ossements humains. Et ces os appartenaient à des gens qui avaient été des êtres humains, des juifs et des gens qui s'étaient opposés aux nazis. Nous avons vu des abat-jours fabriqués à partir de peau humaine, des dentiers d'où l'or avait été arraché. Tout cela nous a terriblement choqués, en particulier les Sud-Africains.
Et avant de quitter Auschwitz, avez-vous prêté serment ?
Oui, monsieur le juge, avant de quitter Auschwitz, nous avons juré d'œuvrer pour l'éradication du racisme où qu'il se trouve.
Et c'est ce que vous avez entrepris d'accomplir tout au long de votre vie.
Correct, my lord.
Ahmed Kathrada a tenu parole et à bientôt 87 ans, il poursuit ce combat.
C'était une étape très importante de ma vie parce que lors de cette visite à Auschwitz, j'ai pu imaginer ce que représentait l'incinération d'êtres humains. Il y avait encore des ossements. C'était 5 ans après la guerre, ils n'avaient pas encore tout nettoyé. Les incinérateurs étaient encore là et j'ai ramené des os avec moi. Je les avais conservés dans une bouteille. Et vous savez, la police en Afrique du Sud menait souvent des raids et des fouilles dans nos maisons. Et un policier m'avait demandé « Qu'est-ce que c'est que cette bouteille ?» Alors je lui ai expliqué que c'était des os d'êtres humains d'Auschwitz. Et vous savez, quelle a été sa réponse ? Il m'a dit « Ce ne sont que des Juifs. » Pour la police de l'apartheid, ce n'était que des Juifs.
You did a presentation in a school this morning, I believe. Vous avez fait une présentation dans une école ce matin, c'est bien cela?
Yes,
Oui, ce matin, j'ai parlé devant 400 élèves et samedi, ils étaient environ 300. Vous savez, les jeunes sont assez ignorants. Donc, nous leur avons parlé du procès de Rivonia et du temps que nous avons passé en prison parce que nous parlions à des gens qui ne savent rien du tout de l'histoire de notre lutte. Et donc, quand j'écoutais à l'instant cette archive et ma promesse de lutter contre le racisme toute ma vie, je me suis dit que cette lutte était encore d'actualité maintenant, à l'heure où je vous parle, parce que nous venons de lancer une campagne de lutte contre le racisme, parce que régulièrement, nous avons des occurrences de racisme en Afrique du Sud. Donc, nous parlons d'un sujet qui est encore d'actualité.
Because every now and then, incidents of racism arise in South Africa. So it's a very topical question that we are dealing with.
Mandela et les autres, les archives du procès Rivonia, un grand reportage de Nicolas Champeau, réalisation Swell Kedi.
Grand reportage à écouter, réécouter bien sûr sur RFI.fr. Et demain, on sera aux États-Unis à Skid Row, la ville des sans-abri, rediffusion d'un grand reportage de Tessa Groman à Los Angeles.
I'd rather